Salut et bienvenue sur Radio Taverne, le canal des bardes. Aujourd'hui, octogone de la parole, puisque je suis avec Olivier Larue de la chaîne Ultima Werba. Ça va Olivier ?
Ça va très bien, merci à toi pour cette invitation.
Merci à toi d'avoir répondu. Alors tu collabores sur plusieurs gros titres avec les maisons d'édition Arcane Asylum et Black Book Edition. On peut nommer, sans être exhaustif, Fallout, Cyberpunk Red, Vampire, La Mascarade, d'ailleurs je sais pas pourquoi je le dis en anglais, c'est complètement absurde, Vampire, La Mascarade, ou encore Roll and Play, mais on peut surtout suivre ton travail de l'ouverture du jeu de rôle au monde, et notamment une démarche que Radio Taverne adore, puisque vraiment on est dans la même démarche sur cette ouverture, cette vulgarisation. On peut donc suivre ton travail sur ta chaîne Twitch, Ultima Werba, ou encore retrouver les replays sur ta chaîne YouTube, où on peut te voir tantôt meneur et tantôt joueur, ce qui est très intéressant puisque les deux sont des expériences complémentaires et très importantes, et rares sont les occasions pour les MJ de pouvoir goûter au plaisir d'être joueur.
c'est vrai, ben j'ai beaucoup de chance parce que j'ai beaucoup d'invités. J'en profite d'ailleurs pour ajouter que, pour ne vexer personne, depuis la fin du mois de mars à peu près, je travaille également avec Edge. J'ai eu la chance de travailler sur la relecture de deux suppléments pour l'appel de Cthulhu. Et donc oui, je suis à la fois maître des jeux et joueur. C'était aussi une solution de confort, pour être honnête. C'était le seul moyen pour moi de vraiment pouvoir proposer beaucoup de parties. Si j'étais maître des jeux à chaque fois, c'était impossible. Et je voulais que vraiment l'essentiel de la chaîne, ce soit des parties de JDR.
Alors, du coup, tu as commencé un petit peu ta présentation. Mais pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, toi, Olivier Larue ?
Eh bien, moi, Olivier Larue. Donc, effectivement, je suis Olivier Larue. Ultima Werba n'est que ma chaîne. J'ai la chance d'être professionnel du jeu de rôle. Je vis essentiellement de la relecture, mais je suis aussi auteur. J'ai été auteur sur Gods, sur Mage l'Ascension, un petit peu sur Roll and Play aussi, même si j'ai plutôt encadré les auteurs sur le recueil de scénarios. Et je suis surtout l'auteur principal du jeu de rôle Apparaître Métro 2033. À côté de ça, j'étais prof de français avant d'être débauché par le secteur du jeu de rôle. Donc, ça fait 5 ans que je vis exclusivement du jeu de rôle maintenant. Et j'ai quand même la chance d'avoir quelques heures de cours juste pour le plaisir dans le supérieur. J'ai à peu près 2 heures de littérature toutes les semaines. Mais j'interviens aussi plutôt sur des demi-journées ou des séminaires de plusieurs jours sur des questions de prise de parole publique et d'éloquence. Et je suis professeur d'éloquence dans le même institut universitaire où je donne des cours de littérature. Et j'ai eu plusieurs partenariats, notamment pour des jurys avec Sciences Po. L'année prochaine, j'aurai des deuxièmes années chez Sciences Po pour des cours d'éloquence, pour le coup.
En fait, je vais être super jaloux pendant cette émission parce que c'est moi que je vais devoir retoucher le plus à l'enregistrement, je pense.
Bah écoute, on va tâcher de te faire quelque chose de propre. Et si jamais mes étudiants écoutent, il ne faut pas que je me mette la honte, tu vois. Mais je suis moins à l'aise sur l'exercice radio. Je ne sais pas pourquoi ça me stresse plus que la vidéo où finalement on se retrouve à parler sans trop y faire attention. Là, je sais qu'il faut qu'on fasse attention au son, donc je suis un petit peu moins détendu.
Ça va bien se passer. Alors, Olivier, je voulais te demander un truc qui m'a fait rire. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça veut dire « Ultima Werba » ?
Ça veut dire « les derniers mots ».
Dans un contexte ?
Sonce, les derniers mots. Alors, il y a plusieurs contextes. Tout d'abord, « Ultima Werba », c'est un magnifique poème de Victor Hugo, qui est très célèbre pour son dernier vers, « Et s'il n'en restait qu'un, je serais celui-là ». J'ai toujours eu ce petit côté ovni, on me l'a dit plein de fois, dans des milieux très différents que je fréquente. Je suis toujours un peu un ovni, je suis toujours un type un peu à part. Je sais que j'ai une approche du jeu de rôle qui a pu saouler mes copains, parce que je voulais qu'on aille plus loin, je voulais qu'on aille vers l'art, je voulais qu'on aille, voilà. Et j'ai un copain comédien qui me disait souvent « Gars, je suis pas au boulot en fait. Jouer entre potes, voilà, arrête de me demander des performances d'acteurs autour de la table. Voilà. » Donc j'ai toujours voulu interroger les limites du jeu de rôle, me dire jusqu'où on peut aller. Et donc, voilà, s'il n'en restait qu'un, je serais celui-là. Je ne sais pas, c'est un verre déjà, c'est le swag absolu. Et puis, ça me parle bien, quoi. Voilà. J'aime énormément ce poème pour tout un tas d'autres raisons. Et puis, il y a cette idée de l'éloquence, c'est un peu l'art d'avoir le dernier mot, mais ultimum verbum, il n'y avait plus la référence, ça marchait moins bien. Donc, j'avoue que j'ai un peu déformé pour avoir quelque chose qui sonnait mieux et qui était exactement le titre de ce poème de Victor Hugo. Donc voilà, c'est multiple, mais c'est comme le logo. Le logo, j'aime beaucoup ce qu'a fait Gabriel, parce que donc Gabriel Bulic, hein, qui est un illustrateur dans le milieu du JDR lui aussi, il m'a proposé un logo dans lequel j'ai les deux V de Ultima Auerba. Je vois des ailes d'oiseau, il y a un symbole de liberté qui me plaît beaucoup. Et puis, il y a quelque chose de l'ordre du livre qui s'ouvre aussi. Donc voilà, ce logo, il est multiple, il est un peu comme moi, il est comme la chaîne. Sur la chaîne, on parle de beaucoup de choses différentes, mais bien sûr, l'éloquence et le jeu de rôle, c'est vraiment le centre. Et puis moi, je me sens un peu pareil, en fait. Parmi les profs, ouais, un rôliste, c'est pas ce qu'il y a de plus commun, ça peut être un peu bizarre. Et puis parmi les rôlistes, il y a beaucoup plus de profs, pour le coup, j'en rencontre plus. Mais parmi les rôlistes, je sais aussi que mon émission, elle peut avoir ses particularités. Parce que, par exemple, je ne suis pas très ouvert à la fantasy, à la science-fiction en termes de littérature. Dans la littérature, ce n'est pas ce qui me parle le plus. Donc, ouais, je suis un peu celui-là. D'ailleurs, sur le Discord, mon titre, c'est celui-là. C'est, voilà, c'est un peu bizarre à la frontière de beaucoup d'univers différents. Tu vois, on parle d'UFC. Qui, dans notre univers, aime l'UFC et pratique le MMA ? Bon. Voilà, donc l'art d'avoir le dernier mot et puis cette référence à Victor Hugo. Et puis voilà.
C'est drôle parce que justement tu fais référence au sport de combat et tu dis en même temps l'art d'avoir le dernier mot. Et on en avait un petit peu parlé ensemble, je trouve que ta chaîne, elle a une forme de structure de match de la parole au support effectivement du jeu de rôle, donc une forme de jeu de rôle différent. Non pas que ce soit... On joue ensemble, on continue de jouer ensemble malgré tout. Enfin, je veux dire, l'affrontement peut faire partie d'une forme de loisir, surtout quand il est intellectuel, un peu comme une partie d'échecs. Et l'art d'avoir le dernier mot, c'est un petit peu une rixe, finalement, de la parole avec ton interlocuteur.
C'est vrai, mais c'est à rapprocher du catch plus que du MMA. Dans le MMA, il y a un affrontement qui est réel. Bien que l'état d'esprit que j'aime, c'est absolument pas le trash talk. Moi, je suis toujours dans l'exemplarité, je pense énormément aux jeunes. C'est pour ça qu'il n'y a pas de gros mots sur la chaîne. C'est parce que j'ai vraiment envie de donner une image clean du JDR, un divertissement un peu smart, quelque chose qui fait que si les parents regardent, ils se disent « Ok, c'est bon, il peut y aller, c'est vraiment quelque chose qui va l'élever intellectuellement. » En tout cas, c'est l'image que j'ai envie de renvoyer. Et du coup, forcément, moi, les combattants que j'aime, tu vois, c'est Cyril Gann et Georges Saint-Pierre, tout en haut de la liste, parce que c'est des gens qui ont un véritable esprit sportif, qui ne jouent pas le jeu de « c'est moi le plus fort, je suis hyper dangereux dans la vraie vie, je t'insulte parce que c'est ça qui fait de moi un vrai bonhomme ». Non, c'est des mecs qui sont au-delà de ça, en fait. Ce sont des athlètes qui se combattent plus eux-mêmes que le gars qu'ils ont en face. Ils n'ont aucune animosité pour la personne en face. Donc, à la limite, si on le prenait dans ce sens-là, pourquoi pas ? Mais je pense que ça va plus loin. C'est plus à rapprocher du catch. C'est-à-dire que c'est du spectacle. On donne l'impression qu'on fait un combat, mais en réalité, c'est une danse. C'est-à-dire qu'on est, on a notre rôle à jouer. Celui à qui je mets un coup de poing, il va faire un triple salto arrière quand il va recevoir le coup de poing. Et du coup, les gens vont se dire « Waouh, quelle puissance dans le coup de poing !» Mais tout vient de lui. Et c'est un copain, Sébastien, qui a fait ce parallèle entre le catch et le jeu de rôle. Et je l'ai trouvé très inspiré. Donc, je la reprends volontiers à mon titre. Désolé, Seb. Voilà. Maintenant, c'est tout le monde pensera que c'est Ultima Auerba, en fait, et Olivier Larue qui ont fait ce parallèle génial entre le catch et le... D'ailleurs, lui est vraiment fan de catch. Moi, j'y connais vraiment pas grand-chose. Mais tu vois, il y a la musique de John Cena quand j'arrive, parce que Bruno, le modérateur, l'un des modérateurs de la chaîne, l'un des grands censeurs, comme on dit, il est très, très catch aussi et il aime beaucoup John Cena. Donc, en clin d'œil, j'ai pris cette musique. Mais par contre, la dimension faire comme si, et oui, on s'affronte, mais au fond, on s'affronte pas vraiment. C'est exactement comme l'auteur et le destinataire. Tu vois, c'est je vais te mentir parce que ce que je vais te raconter est faux. Mais toi, tu vas aussi jouer à « et si c'était vrai » pour parfaire ton expérience de l'immersion. Et il y a quelque chose de ça dans le jeu de rôle. C'est-à-dire que, bien sûr que quand je joue à Alien et que j'entends un bruit bizarre, si je suis un mec intelligent, je vais surtout pas voir ce que c'est parce que je sais qu'on est dans Alien et que je vais mourir. Mais moi, mon grand plaisir, c'est de dire « vous avez entendu ce bruit ? Bien, je pense que la meilleure solution, c'est que nous nous séparions. Parce que c'est débile, mais c'est ça qu'on a dans le film. C'est ça qu'on veut retrouver. Moi, je joue jamais contre mon maître des jeux. Mon maître des jeux, il me tend un gros piège, je saute à pieds joints dedans, parce que je veux qu'on se raconte cette même histoire ensemble. Je sais que tout le monde n'est pas d'accord, mais pour moi, le jeu de rôle est un récit en écriture. C'est pas parce qu'on l'écrit à 4, 6 ou 8 mains que ça change quoi que ce soit. Et c'est pas parce qu'il est en procès, c'est pas parce qu'il est en cours d'écriture que ça n'est pas un récit, puisqu'à la fin, surtout depuis l'actual play, ce qu'on obtient, c'est un récit plus ou moins cohérent, écrit par plusieurs personnes. Mais la finalité, c'est un récit. Donc moi, je veux que le récit qu'on produise à la fin, eh ben, il soit bien, quoi, il soit cohérent.
De qualité.
Si mon personnage doit un peu souffrir, c'est pas grave. A fortiori, dans un one-shot, soyons honnêtes, si on doit mourir dans un one-shot et que la mort est éclatante, c'est pas grave du tout. Dans une campagne, ça nous embête tous. Mais dans un one-shot, on veut donner du spectacle aussi par amour pour les gens qui sont là et qui viennent nous écouter. Ils ont autre chose à faire, en fait. Donc, il faut leur proposer une expérience qui soit un peu forte émotionnellement, quoi. Donc, ça se joue à deux. Il n'y a pas trop de 1v1, même si des fois, on fait semblant pendant les combats, tout ça. Et je cherche toujours un bon titre, d'ailleurs, puisqu'on va refondre un peu la chaîne. Mais je cherche toujours un bon titre pour ces émissions JDR en tête-à-tête. Voilà, tête-à-tête, face-à-face. J'aime bien le vis-à-vis, puisque le vis au Moyen-Âge, c'est le visage, tout simplement. C'est le diminutif. Enfin, le diminutif. Vis veut dire visage. Mais je ne sais pas si ça me convainc totalement. Voilà, il faut que je trouve un bon nom.
Donc, avis aux amateurs de brainstorming. Olivier a lancé la première pierre.
c'est samedi, il faudrait que je balance ça va faire court.
Olivier, comment as-tu rencontré le jeu de rôle dans ta vie? Est-ce que c'est arrivé très jeune ou est-ce que c'est arrivé tardivement et que tout cela s'est développé par la suite?
Je joue et je masterise depuis 25 ans. J'ai vécu une très belle boucle récemment parce que le premier jeu de rôle que j'ai acheté, c'était la première année, j'avais 14 ans quand j'ai découvert le jeu de rôle. Le premier jeu de rôle que j'ai acheté, c'est Bloodlust. C'est un jeu de Croc. Et il y a quelques semaines, j'ai reçu un mail de Croc pour la relecture d'un supplément de Cthulhu. J'étais hyper ému de cette boucle qui se bouclait. Bien entendu, je ne l'ai pas dit à Croc. Je sais que ça l'embarrasserait sans doute et qu'il aurait peut-être une réaction un peu, tu sais, un peu acide, comme il peut avoir. Donc voilà, je me suis bien gardé de le lui dire. Mais voilà, il y a cette boucle qui s'est bouclée. Pour moi, c'était un moment très touchant. Mon tout premier jeu de rôle, c'était une expérience double, en fait, c'est marrant. Mon premier personnage, c'était Hawkmoon. On a créé avec un ami, donc on était en troisième. On a créé avec David Balanza, que j'embrasse s'il écoute, puisque c'est mon ami de longue date et on est toujours amis et on joue encore ensemble, même si c'est plus occasionnel, mais voilà, on ne s'est pas quitté en 25 ans. Le maître des jeux, on l'a un peu perdu de vue, mais nous deux, par contre, on a toujours continué à jouer ensemble. Et donc, ce maître des jeux, qui a notre âge, il nous fait découvrir Hawkmoon en nous le faisant lire, et ça, c'était une super idée. Il nous a fait lire les romans. Et il a dit, bah après, je vais vous faire créer un personnage dans cet univers. Je dis, ouais, super et tout. Moi, je veux jouer Hawkmoon. Non, ça se passe pas comme ça. Hawkmoon, il existe déjà dans cet univers. C'est un PNJ. Toi, il faut que tu crées un autre personnage. Ah, d'accord et tout. Donc, on crée le personnage d'Hawkmoon. Et puis après, on crée aussi un personnage de Star Wars, en fait. Donc, on a deux persos qui sont créés, mais on n'a pas encore joué. Et en fait, la toute première partie a été un Star Wars. Et elle était pourrie. Elle aurait vraiment pu me dégoûter à vie du JDR, et c'est pour ça que j'essaye souvent d'expliquer aux joueurs, en fait, oui, le maître des jeux peut ne pas être très bon, mais en fait, si la partie est mauvaise, c'est aussi de ta faute. Parce que tu fais pas cet effort d'imagination, tu fais pas cet effort de combler les vides par l'imagination que peut-être le maître des jeux pourrait avoir créé parce qu'il n'a pas assez d'écrit ou ce genre de choses. Moi, il me dit, ça commence par, vous êtes dans un couloir, vous êtes en prison, vous êtes dans un couloir noir. Et j'étais en panique tout de suite. Je n'avais jamais fait cette expérience de l'imagination ultra immersive. C'est-à-dire que je me suis vu dans ce couloir. Mon imagination s'est enflammée et j'étais paniqué. Au point que quand je réussis à sortir de la prison, je cours et le maître des jeux s'entête à me dire « Mais tu es dans le noir absolu, tu ne vois rien. » Mais j'avais tellement peur que les Stormtroopers nous tombent dessus que je cours. Et à force de courir et de me cogner au mur, je me suis assommé. J'étais un pseudo Jedi, un aspirant Jedi, et mon camarade qui lui était chasseur de primes, bah il me chope, il me vend à l'Empire, et voilà, je viens de te résumer notre premier scénario.
Super voilà. Court, c'est top pour l'initiation.
Voilà, voilà, super. Ça aurait dégoûté plein de gens. Eh ben, j'ai trouvé ça complètement fou. Et après, on a fait du Hawkmoon. Et c'est surtout à Hawkmoon qu'on a joué après. Et là, vraiment, on a fait tout ce qu'il ne faut pas faire dans le jeu de rôle parce qu'on avait 14 ans. Et c'est ça qui nous a passionnés. C'est de se dire, attends, mais on peut tout faire. Et moi, tu sais, dans le jeu vidéo, il y avait toujours ce cadre. Tu vois, quand je pense à Mario, tout ça, moi, j'ai toujours voulu aller au-delà du cadre, partout. Et dans le jeu vidéo, encore plus. Et ça me rendait fou, ces jeux vidéo où l'écran avance, tu ne peux plus revenir en arrière, tu ne peux pas. Et donc, quand je trouvais un passage secret, j'avais l'impression de m'affranchir un peu des limites imposées par le jeu et j'étais au taquet. Et en fait, le jeu de rôle, c'était ça tout le temps. Et forcément, tu vois, on parlait mal aux gens, le mec, il vient de donner une quête, il finit avec une dague dans le ventre, le maître des jeux s'arrachait les cheveux. Mais en fait, on était juste dans cette expérimentation de du sans limite perpétuel. Et au bout d'un moment, ça nous a un peu passé, on a commencé à rentrer véritablement dans le jeu, à découvrir d'autres ambiances, Shadowrun, Cthulhu. Et ma deuxième rencontre, j'ai 2 ans de plus, j'ai 16 ans, c'est avec Christophe, un viewer sur ma chaîne que vous reconnaîtrez sous le nom de Cyanophilos. Il était déjà prof de français, lui, moi j'avais que 16 ans, il avait le double de mon âge. Et en fait, il arrive dans une asso pour voir ce que les jeunes y font, tu vois, une asso de jeu de rôle, ouais, bon, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il vient regarder, et puis il nous propose des parties. Il voit que c'est du jeu de rôle classique, tout va bien, et il dit, bah moi je vais vous faire jouer à Rêve de Dragon. Et en fait, il nous demande d'écrire des trucs, il y a le côté prof de français, tu vois. Il faut écrire son portrait physique, il faut écrire son portrait psychologique. Et moi, j'ai même écrit un poème, parce que j'écrivais pas mal de poèmes à l'époque. Et il y a une rencontre, tu vois, il voit ce jeune hyper motivé qui lui écrit un texte qui était pas mal pour un gamin de 16 ans. Et en fait, comme j'étais le premier à être prêt, il m'a fait jouer un solo pour mon personnage. Gars, c'était incroyable. C'était Euro Disney dans ma tête. Je mettais un pied devant l'autre, je voyais la poussière sous mes pas. Je sentais la chaleur de cette ville sur ma peau. Je vais participer à un casting, à une audition pour la grande troupe de Sardoc Orzilek qui cherche des comédiens. Et je participe. Et là, je vois le comédien pourri, le comédien très prétentieux. Et Christophe les joue tous. Et il joue Sardoc Orzilek avec cette espèce de voix traînante. Et puis, très amusé par ces jeunes gens qui viennent se prêter au jeu de l'audition. Et moi, mais je suis comme un fou. Je me dis, mais c'est ça le jeu de rôle ? Et là, je découvre le roleplay, tu vois. Mmh. Deuxième rencontre avec le jeu de rôle. Et la troisième, c'est 2 ans plus tard encore, j'ai 18 ans, et c'est L5A, le livre des 5 anneaux. Je découvre un univers incroyable, avec des codes complètement étrangers aux nôtres, et ça me fascine. Et un système, le Roll and Keep, que je me dis, mais c'est génial, pourquoi on n'a pas inventé ça avant ? Et je deviens fou de ce jeu, mais fou. Hein. Avec L5A, je me suis mis au kendo, je buvais que du thé japonais, vraiment, tu vois,
Pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas L5A, c'est dans un monde de samouraïs, donc c'est du médiéval japonais.
Médiéval fantastique, inspiré du Japon, parce que c'est même pas le Japon historique. Quoi. Et ça, voilà, ce sont mes 3 rencontres dans le jeu de rôle. Donc la découverte de ce que c'est que le jeu de rôle avec Hawkmoon et Star Wars, la découverte du roleplay avec Rêve de Dragon et un super maître des jeux, et la découverte de L5A, un jeu qui vraiment était fait pour moi. Quoi. Je me suis régalé, c'est la rencontre, à peu près au même moment d'ailleurs, mes 2 jeux préférés, L5A et Mage l'Ascension. Mais Mage l'Ascension, dans lequel, ben, tu vois, ça aussi, là, il y a une boucle qui se bouclait quand j'ai pu écrire le livret qu'il y a dans l'écran français, qui s'appelle Le prix à payer. Et ce jeu, c'était incroyable. Ce jeu, pareil. Mais tu vois, quand je sors Mage, j'ai de l'appréhension. J'ai des angoisses parce que c'est une usine à gaz, c'est extrêmement difficile à faire tourner de manière cohérente sur une table. Enfin voilà, moi, il m'angoisse ce jeu. Alors que quand je prends L5A, je le prends tout entier. Il n'y a pas d'appréhension, je l'attrape, on joue et on s'éclate et on vit des trucs fous. Voilà, c'est un jeu auquel je reviens tout le temps, même si maintenant je joue à plein d'autres choses.
Hein. Alors justement, tu nous parles vraiment de passion. On sent que c'est des rencontres qui t'habitent encore. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, ouais, c'est que à travers ton expérience, quand on découvre ta chaîne, on peut remarquer que ces expériences ont construit un petit peu ta chaîne, ne serait-ce que cette première expérience 1v1 qui aujourd'hui fait un peu le fond de ta mécanique. Tu nous dis aussi que tu es du coup aujourd'hui un pro dans le jeu de rôle et la question c'est comment aujourd'hui tu arrives à marier le travail avec la passion en sachant que parfois c'est une chose qui peut manger l'autre et où la passion va disparaître parce qu'on peut être un petit peu dégoûté à force des complications qu'amène le travail.
Pour l'instant, j'ai pas encore à souffrir de ça. Après, je vais pas te mentir, tous les jeux ne me hype pas comme un fou. Des fois, il faut que je relise des jeux qui ne m'intéressent pas du tout. Mais j'ai un mantra. À chaque fois que je fais ça, je me dis, mec, t'es chez toi. Tu bosses quand tu veux, alors que tu veux, comme tu veux. Le but du jeu, c'est que tu rentres ton truc dans le temps imparti. C'est du jeu de rôle. Même pas tu pensais que c'était possible quand t'étais gamin de pouvoir lire du jeu de rôle toute la journée et être payé pour ça. Et tu es très correctement payé par rapport au volume que tu produis. Donc, t'as pas le droit de te plaindre, en fait. Et je suis vraiment dans cette logique de j'ai pas le droit de me plaindre parce que objectivement je n'ai pas le droit de me plaindre. Bien sûr, il y a des jours où j'ai pas envie, bien sûr il y a des jours où je tourne à vide, où j'arrive pas à lire efficacement, j'en ai marre, bien sûr il y a des jeux que je n'aime pas du tout et qui m'énervent même, mais fondamentalement je suis payé à lire du jeu de rôle, donc ça n'a jamais abîmé la passion. D'ailleurs, tous les étés, on a un truc qui nous habite énormément et que les gens de la chaîne commencent à connaître parce que j'en parle souvent, ça s'appelle la swag. C'est pour ça que ce terme complètement désuet pour les jeunes, nous, on a beaucoup d'affection pour lui et on continue à l'utiliser énormément tout en sachant que c'est ringard. Mais parce que chez nous, ça veut dire « super week for amazing geeks ». Et en fait, on se retrouve pendant une semaine avec sensiblement toujours la même équipe de copains. Une semaine où on ne fait que du jeu de rôle. Et 7 jours, hein, on se prend même une petite journée de plus pour le ménage et partir. Donc on a 7 jours pleins de JDR. Et c'est la folie, on est comme des lycéens pendant cette semaine-là, on laisse la vie de côté, etc. Et je peux te dire que chaque année, des mois avant, on est comme des fous, on est hypé, donc la passion est toujours là. Et même, je me rends compte que la chaîne la ravive, cette passion, parce que j'ai pu connaître quelque chose de terrible. À force de jouer, tu vis parfois des expériences singulières. J'ai fait une reprise pas très originale du scénario Le Dernier Samouraï, dans L5A, justement, dans le livre des 5 anneaux. Je devais avoir 20-21 ans. Je suis maître des jeux sur ce scénario. Il y a une copine qui est avec nous, Marina, qui joue au jeu de rôle pour la première fois de sa vie. Dans les deux dernières heures de la partie, elle est en larmes non-stop. Un à un, mes joueurs s'effondrent également. Mais s'effondrent, c'est-à-dire pas la petite larme. J'ai un joueur qui est vraiment en sanglots. Et moi, je dois faire mon discours final avant la bataille avec l'aplomb d'un ancien à Kodo. Et je ne l'ai pas du tout. J'ai la voix qui tremble, j'ai moi aussi des larmes qui coulent. Ça donne énormément plus de force au discours. Quand je replie l'écran, la musique continue à tourner et on n'entend plus autour de la table que les sanglots et les reniflements. On vient de vivre un truc, mais comme le film le plus touchant de notre vie. J'ai passé, sans déconner, les 10 années qui ont suivi à rechercher ce type d'expérience. Et je me suis pourri énormément de parties. Parce que c'est quelque chose de l'ordre de la grâce. C'est quelque chose qui est donné et pas quelque chose qu'on peut fabriquer même en essayant de remettre les mêmes ingrédients. La même table, un autre jour, ça aurait pu ne pas fonctionner. Et c'est vraiment l'émission qui me fait découvrir plein de nouveaux joueurs, plein de nouveaux MJ, qui me fait me dire aussi, je suis dans l'émission, je ne suis pas là pour prendre moi mon plaisir, mais avant tout pour en donner aux gens qui écoutent. Ça m'a permis de lâcher un peu prise. Et je retrouve maintenant le plaisir à des petites parties qui ne vont pas très très loin dans l'émotion. Je ne parle pas de mes émissions, hein, je parle aussi de ce que je peux faire encore, même si c'est très rare avec des copains. La passion, tu vois, elle est un peu ravivée parce que je peux prendre du plaisir juste à être autour d'une table, à lancer des dés et à rigoler avec des copains. Alors que j'étais une espèce de fanatique puriste qui recherchait la partie absolue dans chacune de ces parties et qui me valait, de la part de mes copains, ce « bah tu me saoules, on n'est pas au travail, voilà, joue quoi ouais. ». Et j'avais perdu des yeux le côté « jeu ».
T'as dû réapprendre à jouer, entre guillemets.
Ouais, c'est ça, mais à jouer au sens de s'amuser, tu vois, jouer loudéré, et moi j'étais dans jouer aguerré, l'acteur.
Ouais, bien sûr.
Et maintenant, voilà, j'essaie de marier les deux. Mais bon, après, voilà, il y aura encore à grandir et à mûrir. Mais j'espère un jour arriver sur quelque chose qui soit naturellement pas trop loin d'une démarche artistique, mais sans y penser, tu vois, sans ce... quelque chose que tu as tellement travaillé que ça devient un réflexe. Ce que j'apprends, en fait, à mes étudiants concernant l'éloquence, où ils me disent, mais monsieur, vous parlez d'être naturel, d'être vrai dans son rapport aux autres, mais en même temps, vous nous donnez plein de techniques. Et je dis, oui, mais ces techniques, une fois que vous les aurez intériorisées, elles vous permettront juste d'être plus audible, d'être plus séduisant dans votre discours. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut s'en servir pour faire n'importe quoi. Je ne vais pas vous apprendre à vendre des trucs. Je vais vous apprendre à être plus intéressant à écouter alors que vous dites foncièrement la même chose. Donc, il faut que ça devienne un réflexe. Bah voilà, moi, c'est ce que je cherche à faire dans le jeu de rôle. Je cherche sans arrêt, comme un couteau qu'on aiguise, tu vois, à parfaire mon jeu, ma masterisation, à aller explorer de nouveaux personnages, de nouvelles choses. Je travaille à mes parties, vraiment, comme un comédien. Même si pour moi, c'est deux choses différentes. On est plus du côté de l'éloquence que du côté de la comédie. Mais il y a une porosité quoi, entre les deux, tu vois.
Je voudrais juste revenir sur la part pro dans le jeu de rôle dont tu parlais, pour nos auditeurs qui découvrent un petit peu les différentes facettes des métiers du jeu de rôle. Tu es relecteur.
Essentiellement, oui. En tout cas, c'est ça qui me fait manger, si tu veux tout savoir.
Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu en quoi, en fait, consiste ta mission, justement, pour que les personnes qui découvrent ça, qui ne se doutent pas qu'il y a ça sur le marché du jeu de rôle et dans le process de création d'un jeu de rôle, en quoi ça consiste ?
Alors, je ne sais pas si tout le monde fait la même chose. Ce qui me permet, moi, d'en vivre, c'est que tout le monde fait appel à moi parce que j'ai vraiment une formation qui, sans le vouloir, était faite pour ça. Déjà, j'ai une formation centrée sur l'écriture, la stylistique et la génétique littéraire, qui sont vraiment pas des choses courantes dans les études de lettres modernes. Donc la stylistique, c'est l'étude de la grammaire au service du style. Or moi, mon master, c'était de la création littéraire, c'était de l'écriture, j'ai écrit un roman en fait. Ça me permet d'être attentif déjà au style, à la fluidité, etc. Y compris quand le style est trop beau, s'il peut l'être. C'est-à-dire que je me souviens avoir dit à un auteur dont j'aime beaucoup la plume, je lui disais « attention, c'est super beau, mais n'oublie pas, là, on est dans de la notice sur ce passage du texte. Donc, il faut être très didactique. Il faut être fluide et précis. Si quand tu es dans la notice, on a besoin d'aller chercher un dictionnaire, alors, c'est que c'est pas bon. En revanche, quand tu es dans un texte immersif, vas-y, qu'on aille chercher le dictionnaire. Parce qu'on est là aussi pour apprendre des choses aux gens si possible, pour tirer tous les jeunes notamment, parce que bien sûr, on va pas apprendre à des darons de nouveaux mots, tu vois, mais moi, je pense toujours aux jeunes joueurs. J'ai envie qu'ils apprennent de nouveaux mots, qu'ils découvrent des choses grâce au jeu de rôle. Donc, mon travail de relecteur, il est multiple. Il y a le style, je dois fluidifier, retravailler des phrases. Il y a l'orthographe pure, orthographe lexicale, mais c'est pas celle sur laquelle tu as le plus à travailler, tu vois. C'est plutôt la grammaire, donc vérifier les fautes d'accord. Voilà, c'est un travail extrêmement ingrat, puisqu'en fait, 90% des gens ignorent les accords les plus complètement chelous de la langue française, des règles concernant les couleurs, par exemple, les chiffres, la numérotation, tout un tas de règles que l'immense majorité des gens ignorent. Par contre, le petit truc que tu auras oublié, parce que justement, c'est quelque chose de tellement courant qu'en fait, il n'y a pas la petite alerte qui s'allume quand tu passes dessus. Tu vois, moi, quand je vois un après-que, après que le PJ a regardé par la fenêtre, là, je me dis, hop, après-que plus indicatif, là, on est correct. Alors que, c'est, tu vois, ou après que le PJ soit allé à la fenêtre. Non, après que le PJ est allé à la fenêtre. Et donc là, comme je sais que c'est une erreur courante, pim, j'ai la petite alarme qui s'allume. Quand je vois un EET à la place d'un EEST, il peut m'arriver de passer dessus. Alors après, je remets un coup d'antidote. Très souvent, je repasse sur la maquette et je me dis, comment j'ai pu laisser passer ça ? Mais parce que là, l'alerte ne s'allume pas, tu vois. Et on est très loin de la relecture littéraire, c'est-à-dire de la relecture dans le monde éditorial traditionnel, où là, les gens, ils prennent un énorme chèque. Genre, tu vois, pour un Goncourt, ils vont prendre entre 30 et 50 000 balles, alors qu'on parle de 200 pages à relire. Mais ils vont avoir l'année pour le relire. Donc, ils vont relire plein de fois, de manière extrêmement scrupuleuse. Nous, on est toujours pris par les délais dans le jeu de rôle. Si tu veux que ce soit rentable, il faut vraiment faire du volume. Donc, moi, j'ai la chance d'en vivre parce que je fais du volume et parce que j'ai plein de petites alarmes qui vont s'allumer dès qu'il y a une formulation qui peut entraîner une erreur, etc. Néanmoins, je suis très souvent tout seul à relire. Donc, il y a fatalement des choses qui vont passer. Et je te disais que c'est ingrat parce que c'est ça que les gens vont voir. Tu fais une erreur, tu te fais traiter de tous les noms. Les gens ne voient pas les 750 commentaires, par exemple, que j'ai fait. Mais je ne prends pas un chiffre au hasard. Hein.
Non, non, j'imagine.
Dis-toi que 750 commentaires, c'est la maquette de Cyberpunk Red. C'était qui le relecteur au Word ? C'était moi. Sauf qu'en fait, sur la maquette, il y a tout un tas de choses, notamment, attends, mais là, il y a un triangle, il n'est pas à sa place. Attends, mais là, ce trait, il n'est pas placé comme il faut. Attends, mais là, l'illustration, elle mord sur le... Et puis, toutes ces recherches qu'il faut qu'on fasse. Attends, mais on a laissé ça en anglais. Ben, boum, ça va faire 100, peut-être, corrections, parce qu'il y a 100 occurrences du mot, tu vois. Tout ça, les gens ne voient pas. Ils ne voient pas le travail monstrueux que tu as fourni, les heures que ça a demandé. Tout ce qu'ils voient, c'est là, t'as vu, ils ont fait une faute. Et alors, je te passe le moment où il n'y a pas de faute. Je te passe le moment où c'est juste une méconnaissance grammaticale qui fait que tu te fais insulter par un gars qui ne connaît pas la langue française, en fait, et qui va te dire, bah là, ça ne va pas. Et puis après, il y a l'aspect plutôt technique. C'est-à-dire, il faut connaître un peu les règles du jeu. Moi, je relis tellement que je ne peux pas connaître tous les jeux, mais j'ai testé quelque chose comme 90 jeux de rôle. Je joue depuis 25 ans de façon très régulière. Donc, j'ai développé cette culture de la technique qui fait que là, je me dis, tiens, c'est bizarre cette règle. Et puis, je vais vérifier dans la VO. Et puis, ah oui, bah tiens, là, il y a une erreur. Donc, je la signale parce que des fois, il y a des errata. Donc, je vais mettre un petit commentaire en disant, là, les gars, c'est pas comme dans la VO, c'est normal ou non, il faut changer. Et comme ça, après, c'est eux qui tranchent. Donc, mon boulot, c'est ça. Moi, j'ai un document Word. Je relis la technique, l'orthographe et le style. Pour faire simple. Et puis après, j'ai la maquette assez régulièrement aussi. Et là, je refais la même chose. Je relis intégralement le texte de A à Z. Mais bon, voilà, en ce moment, il y a des discussions sur les tarifs. Il faut voir comment ça va évoluer. Parce que bah, quand on me repaye la même chose, je trouve tout à fait normal de refaire le même travail. Quand on me propose de me payer moins, il faut que je dise OK. Mais ça veut dire que je ne relis pas intégralement le texte. Donc, comment on fait, voilà. Donc, il y a des réflexions sur la relecture maquette qui souvent est faite un peu rapidement. Et je pense que ce qui fait que notamment Arkane a pu vraiment augmenter la qualité de ses productions, c'est qu'on a vraiment mis un point d'honneur à relire intégralement le texte deux fois. Et je pense que voilà, on a vraiment participé à faire en sorte que ce soit sérieux, quoi. Donc, mon boulot en tant que relecteur, c'est tout ça. C'est pas mon seul boulot, puisque comme je t'ai dit, j'écris et je peux aussi être amené à encadrer des projets. Mais c'est vraiment la relecture qui me fait manger, quoi.
Merci beaucoup pour cette explication, parce que, en fait, ça me semble important pour moi d'avoir effectivement une explication sur des métiers qui sont un peu plus dans l'ombre, effectivement, pour amener aussi les gens à se rendre compte que c'est pas parce que nous, on peut s'amuser à la sortie de ça, avec certes, parfois, il y a des prix que certaines personnes trouvent cher. Après, il ne faut pas perdre de vue que c'est surtout un jugement qui est personnel. Mais quand on s'amuse soi, ça ne veut pas dire que la personne qui l'a produit, elle, s'est amusée. Ça reste un travail. Et ça, c'est important parce que trop souvent, on a cet amalgame un peu bizarre qui se produit. Mais malgré tout, on a tendance à penser que, ah bah tiens, c'est cool, je m'amuse, donc ça doit être un travail cool où on s'amuse. Et non, ça ne marche pas comme ça. C'est un travail. Tous les travaux demandent de la méthode, de la technique, et puis bah, parfois c'est rébarbatif.
Oui, ça peut l'être, mais très honnêtement, je peux passer des heures au téléphone avec Mathieu Saint-Toux, avec Fabien Marteau, avec Marc Sautrio chez Black Book, avec Michael Croatoriou chez Edge, voilà, j'embrasse tout ce petit monde s'il nous écoute. Avec Mathieu, on fait souvent la blague de « chérie, c'est pour le boulot », tu vois, parce que très honnêtement, on passe 2 heures au téléphone, et 2 heures, c'est une moyenne, hein, parce qu'avec Mathieu, on est très bavards l'un comme l'autre, donc ça peut être très très long. Ouais, là, c'est difficile de te sentir au taf, alors qu'en fait, on est vraiment en train de parler boulot, tu vois. Mais non, il faut assumer, on a un boulot de rêve pour ceux qui aiment ça. Attention, il y a des gens qui sont pas des passionnés de jeux de rôle et qui sont dans des entreprises qui font du jeu de rôle. Hein. Il y en a plein, même.
Ça reste un travail.
C'est, pour eux, c'est un travail pur et simple. Et il y a aussi d'autres choses que je trouve un peu mal avisées, pour rester très poli, c'est quand on se met à faire travailler des fans. Ça donne souvent un rendu très médiocre, simplement parce que c'est pas leur travail, et que les fans, ils sont pleins de bonne volonté, ils veulent vraiment que le livre soit beau à la fin. Il n'empêche qu'il y a tout un tas de règles qu'ils ne connaissent pas. Moi, je suis allé passer la certification Voltaire. Bon, j'ai eu 925 points, c'est sur 1000, mais pour te dire, 98,3% des gens qui ont passé ce concours, depuis qu'il existe, ont eu une note inférieure à la mienne. Donc ça laisse imaginer le niveau moyen, tu vois.
De maîtrise de la langue.
Et donc, pas mon niveau à moi. Parce que mon niveau à moi, soyons honnêtes, c'est le niveau requis pour bosser de la langue, pour vivre de la langue. Je ne suis pas un tueur. J'ai le niveau requis. D'ailleurs, quand tu regardes l'échelle du certificat Voltaire, 300 points, c'est vraiment orthographe technique. Tu es artisan, tu vas peut-être échanger quelques mails avec tes clients, il faut que la formulation de base, les phrases simples, soient sans faute. Ok. 500, c'est professionnel. C'est-à-dire que dans le cadre d'une profession dans laquelle tu vas pouvoir écrire un petit peu plus, bah, il faut quand même que tu connaisses, que tu aies des solides connaissances de la langue française. 700, c'est affaire. C'est le niveau minimal qu'il faut avoir pour être dans des boulots dans lesquels tu vas pouvoir commencer à relire tes collaborateurs. Ils prennent comme exemple des avocats, des juristes, des notaires, etc. Tu vois. 900, c'est expert de la langue. Et ils prennent en exemple les traducteurs, les relecteurs. Voilà. Évidemment, dans le jeu de rôle, c'est rarissime. Parce que quand tu as ce niveau-là, c'est ce que me disait Damien Coltis il n'y a pas si longtemps. Il me disait, mais en fait, Olivier, c'est en ça aussi que tu as un ovni. Quand tu as ce niveau-là, tu ne bosses pas dans le jeu de rôle en général. Tu bosses dans des endroits où ça paye beaucoup plus. Et de fait, moi, je peux relire des petites choses. Tu vois, je vais relire une thèse. Je peux relire dans le milieu littéraire aussi. Les tarifs ne sont pas les mêmes. Mais ça m'amuse moins. Voilà, le jeu de rôle, je suis payé très correctement. J'ai un peu moins de pression parce que la rigueur qu'on te demande, vu les délais que tu as, n'est pas la même. Donc, je suis content que le jeu de rôle profite de cette expertise. Mais en même temps, j'ai une espèce d'exigence qui me fait me dire, mais le jeu de rôle ne mérite pas moins. Si on veut arrêter de ne pas être traité comme du livre, si on veut arrêter d'être regardé de haut par les éditions traditionnelles, il faut aussi qu'on soit à la hauteur. Et il y a encore trop de livres qui sortent, y compris dans le milieu professionnel, qui ne font pas professionnel, qui font trop amateur. Il y a trop de fautes, il y a vraiment des choses... quand tu as un paragraphe complet qui saute, quand tu as des petits mots qui sautent, c'est pas pro. Moi, je connais l'envers du décor, je sais à quel point c'est compliqué. Il n'empêche que, voilà, il faut avoir cette exigence pour, petit à petit, que le jeu de rôle trouve sa place au milieu du livre.
Alors, Olivier, je te propose qu'on saute des yeux à la voix pour se rapprocher un peu d'un sujet qui te concerne aussi, qui est Ultima Werba. Ça te va ?
Ça me va. Je te laisse mettre le conducteur, même si je parle beaucoup. Mon Dieu, j'espère que tu feras des coupes.
T'inquiète. Alors, Olivier, je tenais à t'interviewer tout simplement parce que aujourd'hui, alors, la communauté rôliste est bienveillante. Donc, bien sûr, les gens qui ne se sentent pas l'importance du roleplay sont les bienvenus. On les embrasse. Néanmoins, le roleplay fait aussi partie d'un grand plaisir du jeu de rôle. Et on sait ici que tu y accordes une importance toute particulière. Le roleplay, mais aussi l'importance de l'imaginaire. Et c'est ce qu'on peut découvrir sur ta chaîne Ultima Werba, puisque on peut assister à des parties de jeux de rôle très dépouillées, où l'essentiel va se passer dans le descriptif que soit toi en tant que maître de jeu, soit donc ton maître de jeu quand tu es joueur, va faire à la parole, et la réponse du joueur va se faire aussi par la parole, donc tout se passe vraiment dans la tête, les mots sont là pour être générateurs d'imaginaire. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la création d'Ultima Werba, de cette inspiration, comment ça s'est construit, l'importance que tu donnes aujourd'hui à la parole, parce que tu viens de nous parler énormément de, certes, l'orthographe, la grammaire, on va dire grosso modo, globalement, toute une part écrite et lue, mais toi, tu travailles aussi la voix.
Alors oui, même si Bruno me disait, est-ce que dans Ultima Werba, donc je rappelle, Bruno est un ami de longue date, un membre de la SWAG, et c'est aussi l'un des grands censeurs avec Sandra, que j'embrasse, sur la chaîne, donc le modérateur, puisqu'on aime bien avoir des titres pompeux, on ne se prend pas du tout au sérieux, rassurez-vous, mais on aime bien ces titres pompeux, ça nous fait rire. Donc on n'a pas des modérateurs, nous avons des grands censeurs.
C'est baroque.
Ça vient du Discord, voilà, c'est ça. Et donc Bruno est un grand censeur et il me disait, est-ce que quand tu utilises Voice Mode pour déformer ta voix et pour mettre dans l'ambiance, est-ce que tu ne triches pas un peu? Est-ce que c'est pas contraire à Ultima Werba? Et je me suis dit, tiens, en voilà un qui est en train de devenir plus royaliste que le roi. Mais qui n'a pas tout à fait tort. Et je lui ai dit, tu as raison, c'est une entorse à ce que je me suis fixé. Mais dans la mesure où ça contribue à l'immersion, allez, je tolère cette petite entorse. Effectivement, il n'y a pas d'image sur Ultima Verba, elles sont même proscrites, parce que déjà, mon approche littéraire, puisque je suis auteur aussi, j'ai beaucoup écrit, et souvent quand on me disait, mais c'est quoi, quelle est la problématique centrale quand tu te lances dans un roman ou quoi, et je disais souvent, c'est tenir l'image en échec. En fait, c'est ça qui me pose problème avec la fantasy, c'est que souvent on a de magnifiques scénarios, mais que le style n'est pas si important finalement. Et moi, j'ai pas à manger quand je lis des textes comme ça. Et donc, il y a peu de textes, mis à part Jaworski, dans lesquels je me dis, waouh, il y a une super histoire, mais ouf, la langue, elle me plaît, elle est belle, le style des phrases, la musicalité, le rythme, enfin, tout est parfait. Ça m'arrive très très rarement dans la littérature dite geek, tu vois, la SF, le post-apo, la fantasy, tout ça. Et moi, quand on me posait la question sur ma propre écriture, je disais, mon objectif, c'est tenir l'image en échec. Si on peut faire un film ultra fidèle de mon roman, c'est que mon roman, il n'a pas lieu d'être. En fait, mon roman ne sert à rien. Et une bonne série ou un bon film, bah, ce sera toujours mieux. Si le style du roman est tellement particulier qu'il est très difficile à retranscrire, là, on est dans une œuvre littéraire. Là, on est dans quelque chose qui a son identité propre. Et on peut avoir des atmosphères, on peut avoir un scénario. Tout ça peut être rendu à l'image, mais il faut ces petites choses qui vont faire que l'expérience du roman, elle est unique. C'est un petit peu ça que je vise aussi avec Ultima Verba. C'est-à-dire que ce qu'on va proposer doit dépasser les images. Après, c'est parfois un vrai challenge parce qu'on a joué à Orage, le jeu de Gabriel Bulic qui est en cours de création. On a joué à Insectopia. On a joué à Nock. On y joue d'ailleurs actuellement sur la chaîne, à Imperium 5. Sont que des univers très très marqués du point de vue de l'identité visuelle, c'est très difficile de les rendre sans images. Il faut accepter un peu plus de descriptions, de choses comme ça. Puis je voudrais rebondir sur... Alors déjà, attends, je vais répondre à ta question qui était comment le concept est né. Le concept est né, il est extrêmement difficile de faire comprendre aux gens que c'est sincère, mais moi j'ai tout. Je vis de ce que j'aime, mais j'ai énormément galéré pendant les 30 premières années de ma vie, j'en ai bientôt 40. Et je me suis dit, si je peux aider, maintenant que je vis confortablement, de ma passion, depuis chez moi, que je suis un peu mon propre maître, je pourrais laisser pourrir cette chance qui m'a été donnée et me gaver toujours plus, et être là sur mon petit nombril à me dire « Ah, c'est génial, ma vie est géniale !» Ou je pourrais me dire « Moi, maintenant, c'est bon, qu'est-ce que je peux faire pour les autres ?» Du coup, je me suis dit, cette chaîne, l'essentiel, c'est la passerelle. Et il y a deux choses. Faire connaître des projets que je trouve sympas, faire connaître le jeu de rôle au plus grand nombre de personnes, et j'aimerais bien notamment, tu vois, finir par faire venir des TikTokers, des influenceuses d'Insta qui font des tutos make-up, en fait des gens qui n'ont rien à voir avec le jeu de rôle. Petite interview, plus on joue une partie, pour amener au jeu de rôle un public qui n'en a jamais entendu parler. Et surtout pour rappeler que c'est pas que Donjons et Dragons. Sur la chaîne, on a énormément de jeux différents, énormément d'ambiances. J'essaie toujours de changer de personnage, de changer de jeu. Bon, bien sûr, à force, il y a des jeux qui vont revenir. Il y a d'ailleurs Cthulhu qui est revenu une fois j'étais MJ, une fois j'étais joueur. Mais voilà, je veux montrer que le jeu de rôle, c'est très riche, c'est très varié. Je veux permettre un tout petit peu à des gens. Et tu vois, quand je sais que sur Imperium 5 et Argiropé, bah, j'ai juste permis un pledge supplémentaire, ben je suis super content parce que ma chaîne elle est petite, elle va fêter ses 6 mois là ce week-end. Et ben voilà, c'est à terme, c'est ça que je voudrais. Je sais que ça peut paraître étrange parce qu'on fait toujours les choses pour soi, soi-disant. Non, j'en ai pas besoin. Et pour être très sincère, cette chaîne a créé des problèmes dans une vie qui n'en connaissait plus beaucoup. Et ben voilà, je sais pas si je vais. Depuis le début, je dis que je me laisse un an pour voir comment ça évolue. Si dans un an je me rends compte que c'est trop chronophage et que ça aide pas tant que ça les gens que je voudrais aider, ben ok, j'arrêterai. Si ça marche bien ou si je me rends compte que ça rentre de manière moins violente dans l'emploi du temps, je pourrais peut-être continuer aussi. Donc voilà, l'enjeu c'était ça. L'enjeu c'était 1. Faire connaître le jeu de rôle à un maximum de personnes. En tout cas, participer à faire connaître le jeu de rôle. 2. Aider des projets qui me tiennent à cœur. Et 3. Eh ben ça, c'était pour répondre à l'autre truc. Oui, déjà, il y avait l'idée de communiquer autrement. C'est pour ça que donc il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas de polémique sur la chaîne. C'est marrant. Aujourd'hui, en fait, c'est en ne disant pas de gros mots que tu es transgressif. Le vocabulaire vulgaire, grossier, a toujours été le vocabulaire de la transgression, en fait. Je veux dire, les crapules se reconnaissaient comme ça, tu vois. Et puis aujourd'hui, en fait, c'est tellement banal qu'en fait, c'est quand tu ne dis plus gros mots que tu deviens transgressif. Et comme j'aime bien ne pas faire comme les autres, comme j'ai quand même ce passif de prof de français et que je veux que les gens qui viennent sur ma chaîne, les jeunes notamment, ben, ils voient que c'est possible aussi de parler sans gros mots et surtout que leurs parents se disent c'est une émission parfaitement safe, mon fils de 13 ans, il peut regarder ça. Et ben voilà, ça c'est mon objectif, c'est de proposer un divertissement chic, un peu smart, voilà, et où, oui, on fait cet effort de pas de gros mots. Et communiquer autrement parce que pas de polémique. Pour moi, toutes les postures sur Internet ne sont que des postures. On ne peut pas être dans la parfaite sincérité, et pour moi, la parfaite sincérité, c'est la recherche de la vérité. Quand on pense l'avoir trouvée, ah, déjà, c'est un très mauvais départ, on peut plus débattre d'un point de vue philosophique, on peut faire du débat d'opinion. Moi, le débat d'opinion, ça m'intéresse pas, parce que ce qui m'intéresse, c'est la vérité. Et la vérité, elle exige de l'écoute attentive, elle exige de la nuance, et le débat aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Donc, je vais être dur, mais je le vomis. Ça n'est même pas, si tu veux, que je suis contre. Non, je le vomis. Je vomis cette posture militante d'un côté comme de l'autre. Et je trouve qu'il n'y a plus que les extrêmes qui occupent le terrain, qui ont un dialogue de sourds à longueur de journée, qui passent par l'invective, par l'insulte, etc. La passerelle, c'est créer des ponts entre des gens qui peut-être n'auraient pas parlé ensemble, simplement parce qu'on a laissé un peu les polémiques de côté, et qu'on sera peut-être prêt plus tard, quand on aura fait des parties ensemble, qu'on se sera régalé, à boire une bière et avoir une discussion, franchement, où on est en franc désaccord. Mais au fond, la personne en face, on la connaît mieux que ça. Et en fait, on a peut-être même appris à l'aimer. Et donc, si on l'aime, bah oui, son défaut, peut-être qu'un jour, elle changera d'avis. On peut continuer à l'aimer malgré ça. Non, aujourd'hui, on se déteste a priori. Et moi, je veux absolument aller contre ça. Je veux, désolé de ce mot un peu galvaudé, mais je veux de la bienveillance sur ma chaîne, en fait. Je veux que les gens soient capables de s'aimer d'abord et après, éventuellement, de discuter de choses dont ils sont pas d'accord. Mais pas chez moi, ailleurs. Ils vont se crêper le chignon ailleurs. S'ils veulent se taper, ils enfilent des gants, ils font du MMA. Ça me va. Je trouve ça très sain, avec des règles, avec un arbitre. Mais ils ne passent pas par l'invective, par les attaques sous la ceinture, par la menace de mort, parfois. Enfin, c'est fou. Twitter, c'est de la folie. Et il y a beaucoup trop de gens, même des gens très bien, qui participent à cette folie. Moi, je ne veux pas y participer et ma chaîne n'y participera certainement pas. Mais voilà, il y a un autre truc dont je voulais te parler, mais je vais quand même te laisser la parole. Parce que...
Non, vas-y, dis-moi.
Tu as parlé du roleplay en disant « on accueille ceux qui en font moins ». Il y a une espèce de pudeur vis-à-vis du roleplay très poussé. Pour moi, il y a deux grands visages de deux grandes façons de faire différemment du jeu de rôle. D'un côté, il y a Fibre Tigre, qui est vraiment un animateur hors pair, qui conduit des scénars d'une main de maître, il y a une chouette ambiance à la table, etc. De l'autre côté, pour moi, l'autre pendant, c'est Julien Dutel, avec Roll and Play, qui lui est vraiment dans, qui joue avec des comédiens, on est vraiment dans l'immersion, dans le jeu d'acteur. Et évidemment, l'un me plaît plus que l'autre, mais je soutiens foncièrement les deux, parce que ces deux façons de jouer existent. Je ne suis pas d'accord avec les discours qui voudraient faire valoir l'un plus que l'autre. Mais de fait, je peux pas me renier, je suis beaucoup plus du côté de l'éloquence, de l'acting, de l'immersion. Quand des gens disent « oui, mais ça peut faire peur », les gens se disent, ils regardent du jeu de rôle et disent « oui, mais moi, je pourrais jamais faire ça ». Un gamin qui veut se mettre au foot, en fait, il veut devenir Ronaldo. Il veut pas devenir Jean-Pierre qui joue à Melun en 15e division. Non, non. Il veut devenir
même
Ronaldo.
Même si Jean-Pierre est très bien.
Même si Jean-Pierre est très bien, bien sûr. Mais c'est pas ça qu'il veut le gamin. Et puis, on peut essayer de faire de la langue de bois en disant « Mais oui, Jean-Pierre, t'as le droit. Jean-Pierre n'existe pas. Il y a un personnage fictif. Ça peut être une truffe complète, en fait. Tu vois, on prend toujours des gants. Mais n'en prenons pas avec au moins nos personnages fictifs. Maltraitons-les un peu. Au moins, ayons ce droit-là, puisqu'on peut plus mal parler des gens. Ça, c'est pas un mal. Des personnages fictifs, c'est pas un problème. Bon, je ferme cette parenthèse comique. Mais le gamin, il veut être Ronaldo. Pourquoi il n'y aurait pas des Ronaldo du jeu de rôle? Et moi, je crois qu'il y a des fois des gens qui poussent... Voilà, je connais très peu, parce que je ne suis pas très, très consommateur d'actual play. Je connais, évidemment, mais je ne consomme pas énormément. Mais Matt Mercer, Critical Role, je ne pense pas qu'il fasse peur aux gens. Je pense qu'il suscite des vocations. Je pense qu'il rend smart, il rend mainstream Donjons et Dragons. et que c'est une très bonne chose pour le jeu de rôle. Après, il faut passer cette barre. Moi, j'en ai marre de voir que le jeu de rôle se limite quand même beaucoup à Donjons et Dragons, mais c'est sans doute une première étape, donc voilà. Mais moi, je suis pas de l'école de t'es pas capable de faire ça, donc tu vas pas faire de jeu de rôle. Non, on a tous commencé en faisant n'importe quoi, mais on est tous inspirés par les champions des disciplines qu'on pratique. Moi, quand je me suis mis au MMA, je me suis dit, moi, je veux faire comme Georges Saint-Pierre. Je veux pas faire comme mon pote qui en fait depuis 2 mois. C'est cool, mais non, moi, je veux être Georges Saint-Pierre et je veux être champion du UFC, tu vois. Et je pense que le jeu de rôle, c'est pas différent. Je pense que le jeu de rôle, on peut montrer l'exemple de parties de ouf qui pourront inspirer les gens.
J'ai envie de te dire, je crois que Ultima Werba est à la vidéo ce que Radio Taverne, j'espère, deviendra à l'audio, parce que les deux chaînes nourrissent vraiment énormément d'acquaintances sur les valeurs défendues et les objectifs d'ouverture, de bienveillance, et se faire connaître effectivement des personnes moins connues, de tendre un micro. Alors on a la chance effectivement sur dans ta chaîne comme sur le podcast d'avoir des sommités parfois du jeu de rôle et des personnes qui sont importantes dans le marché et puis aussi des personnes moins connues mais qui sont hyper intéressantes par leur expérience et qui ouvrent justement cette diversité dont on parle depuis tout à l'heure. Et justement en parlant de diversité, bah, tu as déjà commencé en fait à en parler, hein, mais tu l'as compris que Radio Taverne cherche comme toi à populariser le jeu de rôle, à passer les freins que certaines personnes ont, que tu as cités, qui sont le jeu de rôle, ça peut faire peur, le jeu de rôle, je suis pas à l'aise, c'est pas pour moi, etc. Et qu'est-ce que tu dis ou dirais à justement quelqu'un qui hésite à passer le pas et finalement qui en fait pourrait être intéressé?
Masterise.
Direct, tu passes le pas.
Direct, c'est-à-dire qu'en fait, moi je joue avec Sandra, une amie donc, qui fait partie justement des grands censeurs. Sandra est une grande introvertie, quelqu'un qui a du mal à prendre la parole en public. Bah, tu vois, c'est marrant parce que très vite, elle était dans cette démarche de vouloir s'améliorer tout ça. Et en fait, elle a fait quelques parties et elle avait parfois du mal. Bon, déjà, parfois, elle se laissait déconcentrer. Donc, elle disait un truc parce qu'elle avait peur de me faire répéter. Et je lui disais, non, n'aie pas peur. Tu as une absence. Tu me demandes de te replacer les événements. On n'est pas en émission. En plus, c'est pas gênant. Il n'y a pas de problème. Mais rapidement, je lui ai dit, masterise. D'abord, parce que quand tu vas te rendre compte que tu sais le faire, ça va te faire vraiment gagner en confiance. Et que c'est tellement plus complexe que jouer qu'une fois que tu auras masterisé une fois ou deux, mais tu joueras beaucoup plus facilement. En fait, il faut y aller, il faut se jeter à l'eau, c'est tout. On a tous commencé. Ma première partie de JDR, je m'en rappelle, hein, moi j'ai masterisé sur Rockmoon, du coup, puisque j'y jouais, ça s'appelait La Quête de Grandor. C'était un scénario éclaté au sol. J'avais 14 ans, c'était nul, c'était linéaire au possible. Enfin voilà, si tu me ferais un scénar comme ça aujourd'hui, je me barrerais au bout de 15 minutes. Mais peu importe, qui te juge ? J'étais avec des potes du même âge, ils ont trouvé ça cool. Bah, y en a qui m'ont dit, ouais, c'était un peu linéaire, voilà. Mais il faut se lancer à l'eau, mais c'est exactement la même chose que l'éloquence. Ça ne fonctionne que face à un public bienveillant. Faire un discours devant des gens qui te huent et qui veulent ta mort, c'est 1000 fois plus compliqué que faire un discours devant des gens qui t'applaudissent, qui rient et qui sont bienveillants. Donc une table de jeu de rôle, il faut jouer avec ses potes, il faut jouer avec des gens, voilà. Pour sa première partie, il faut jouer avec des amis en qui on a confiance et où on sait que voilà, on a le droit de se planter. Si on est dans la représentation, dans la performance et qu'on veut faire bien et qu'on a peur d'être jugé, ça met la barre beaucoup plus haut. 1, joue avec des vrais potes ou de la famille. 2, masterise, jette-toi dans le bain et puis tu verras en fait. Après, c'est de la pratique, c'est comme tout. Plus tu vas pratiquer, plus tu vas t'améliorer. Mais pourquoi tu voudrais être Matt Mercer à ta première partie ? Y en a qui ne le sont pas au bout de 25 ans. Donc, voilà, tu peux. Il faut accepter de commencer par le début.
Justement, ça m'amène à la question qui suit. Puisque tu conseilles de commencer par devenir maître de jeu tout de suite, quel conseil tu donnes pour devenir un bon maître de jeu ou s'améliorer ?
Waouh ! Ouais. Bah, ça dépend. Un parfait débutant ou. À qui je donne ce conseil ? Mais moi, jeu de rôle. Ok, qui j'ai en face de moi ? Il ressemble à quoi ? Il a quel âge ?
Franchement, j'allais te retourner l'attaque. Tu as été le plus rapide de nous deux. Alors, on va partir sur quelqu'un qui a un profil jeune adulte, à peu près 25 ans. Donc, ça veut dire qu'il a déjà quelques moyens en tant que jeune actif. Donc, il a potentiellement la possibilité de s'acheter des jeux de rôle, au moins la base d'un jeu de rôle.
Okay.
Sauf que du coup, il doit potasser la règle. Comme tu es un grand relecteur, justement, tu sauras lui donner de bons conseils pour choper tout ce qu'il y a d'informations dedans. Il a réussi à rassembler une table de non-joueurs. En fait, finalement, ça va être une initiation pour tout le monde. Donc, il a pris quelque chose de, j'ai envie de dire, lambda, un des gros titres, parce qu'en fait, il commence à s'intéresser aux jeux de rôle. Donc, il a pris ce qu'il entendait le plus, ce dont il entendait le plus parler. Et il voudrait faire une super première partie.
Premier conseil, pars du principe que ta partie sera pourrie. Fais-moi confiance.
C'est vrai.
J'ai des amis, je vais me clasher tout seul. Hein. J'ai des amis à qui j'ai dit, t'imagines l'orgueil du mec, quoi, le toupet. Je leur dis, les gars, avant ce soir, vous avez jamais joué au jeu de rôle. La partie que je vais vous faire ce soir, elle était ouf. Eh ben, tu peux en parler avec Anoxar, qui est un de mes amis, qui est grand censeur aussi, mais plutôt sur l'aspect technique. Un autre membre de la SWAG. Il me le ressort très souvent en étant mort de rire. J'avais 20 ans, tu vois. Je suis même pas sûr d'avoir 20 ans. Je crois que j'en avais 19. Et c'était pour une partie d'L5A qui était nulle, qui était nulle. Voilà, moi, j'étais parti bien en tête sur une idée qui me faisait triper moi, sans être suffisamment à l'écoute de mes joueurs, qui est un gros conseil, en fait, que je donne aujourd'hui. Et en fait, la partie était pourrie. Ils me la ressortent très souvent. On a suivi un poney tout le long, c'était nul. Bon, voilà. Donc, pars du principe que ta partie va être naze. Tu peux pas faire moins que naze. Donc déjà, si tu dis ma partie va être géniale, en fait, tu vas te mettre une pression. Julien Dutel en parle beaucoup dans ses conseils au maître des jeux. Tu vas te mettre une pression inutile. Donc non, non, non. Commence par te dire que ta partie, elle va être éclatée au sol et c'est pas grave. Vous êtes tous débutants. Permets-toi l'échec. Parce que sinon, tu vas pas réussir à jouer. Après, le fait que ta partie soit géniale, je suis désolé, c'est même pas entre tes mains. À un moment donné, la magie opère. Tu sais pas d'où ça vient. Ne fais pas la même erreur que moi qui un jour vécu une partie incroyable et qui a passé 10 ans de sa vie à essayer de reproduire la même chose. Ça n'est pas possible. Donc, premier conseil, ne te mets pas la pression. Dis-toi que tu vas faire de ton mieux et que voilà. Dis-toi que vous allez être avec des potes autour d'une table et que vous allez vous amuser. Potasse les règles parce que comme le côté acting au début, bah, il faudra le travailler. Le côté immersif, pareil. Eh ben, le côté jeu de société, il faut le développer. Donc, il ne faut pas avoir peur d'aller sur du Donjons et Dragons, sur du Héros et Dragons. Dans Héros et Dragons, dans Chroniques oubliées, il y a plein de scénarios écrits qui te prennent vraiment par la main de A à Z. Lis-le une fois, deux fois, trois fois. Prends plaisir à créer un personnage, à simuler des combats. Commence à jouer quand tu prépares. Si tu t'amuses quand tu prépares, ta préparation te pèsera moins et tu auras hâte de jouer avec tes amis et de voir ce que ça donne en vrai. Moi, je me rappelle sur JRTM, j'avais 16 ans, c'était un monstre JRTM. C'est les règles de Rollmaster, c'est le jeu de rôle des terres du milieu. C'était l'enfer et j'avais 16 ans. Mais je créais mon personnage, je simulais des combats, je lançais des dés et tout. Ça va être trop bien quand je vais jouer avec mes copains. Bon, bah, j'y suis arrivé. Et j'avais 16 ans et j'étais clairement pas matheux. Et ben voilà, mon conseil, c'est ça. Pas trop de pression. Amuse-toi quand tu crées du PNJ, quand tu simules des combats. Entraîne-toi sur les règles pour être à l'aise. Lis plusieurs fois un petit scénar simple qui te prend par la main et lance-toi. Lance-toi, accepte que ce sera pas ouf.
Et surtout, je me permettrai de rajouter à ça que dans l'histoire du jeu de rôle, en fait, on a commencé avec, certes, des... En fait, est-ce qu'on peut vraiment parler de règles ? À la base, c'était surtout des systèmes, des guides pour, en fait, créer de la simulation. Et à la base, eh ben, y avait plein de trous, plein de manques dans cette simulation, et c'était les joueurs qui, à vif, pendant la partie sur la table, eh bien, ils mettaient en place un système de simulation, de dire, bah ok, pour faire telle action, on va s'y prendre comme ça, et puis c'était parti, donc moralité, effectivement, comme tu le dis, il faut pas se mettre la pression, il faut être détendu, et si à un moment donné, une situation où on se dit, ah merde, est-ce que j'ai vu une règle sur telle chose, ou comment on me demande de faire ça, comment je peux faire, bah en fait, il faut se sentir libre de créer la règle sur le vif, quitte à revenir dans une partie plus tard en disant, alors on a fait comme ça la dernière fois, mais en fait, je suis allé faire des recherches, et normalement, on fait comme ça. Donc, rectifier après, quoi.
Oui, oui. Et bien, c'est pareil, ceux qui font vraiment, des fois, on critique les gens qui font du pur donge, tu vois. Porte, monstre, trésor. Et alors, si c'est ça qui les fait triper, en fait. Moi, c'est sûr que c'est pas le jeu que je préfère. Et encore. quand je fais du Donjons et Dragons, j'aime jouer à Donjons et Dragons. Donc je vais mettre de l'ambiance, de la musique, etc. Il n'empêche que j'aime bien sortir ma petite battle map, mes petites figurines, enfin, ou en tout cas mes figurines en carton ou mes jetons, peu importe. Mais j'aime bien aussi savoir exactement la portée du sort, de machin. Moi, j'aime prendre un jeu dans son ensemble. Donc y a des, c'est fait pour être joué comme ça, donc je joue en le jusqu'au bout. Et ça ne me dérange pas du tout. Après, j'ai plus d'attrait vers l'immersion, mais je ne considère pas que ce que je fais, c'est plus du jeu de rôle que des gens qui, comme dit un pote, poussent des figurines. Il faut accepter que la pratique du jeu de rôle, elle est plurielle.
C'est vrai, elle a énormément de visages. En tout cas, Olivier, merci beaucoup pour cette expérience, parce que je dois avouer que celle-là, d'abord, on ne me l'avait jamais faite. Et je crois que je suis resté depuis trop longtemps passif. Il y a mes potes qui me demandent beaucoup, beaucoup de remasterer des parties parce que ça fait longtemps qu'on est à l'arrêt et je me rends compte qu'effectivement, ça manque. Cette petite expérience vient de rallumer le diesel, tu vois.
Ah bah tu vois, et je vais donner un conseil. Si tu veux masteriser, n'attends pas le bon moment. La chaîne m'a énormément aidé pour ça. Il y a plein de petits jeux que j'ai lus qui m'ont plu et j'ai eu peur de me lancer. Je me sentais pas prêt et tout ça. Sauf que la chaîne, je dis ok, on joue à quoi? Bah on joue à tel jeu. D'accord, quelle date? Telle date. Bon, bah après c'est marche ou crève. Hein. La date elle arrive et moi il faut que je sois prêt. Du coup ça me force la main. Si j'étais toi, je commencerais par poser la date avec mes copains. Parce que tu vas aller à l'essentiel. Moi quand je dois masteriser un jeu que je connais peu ou pas, c'est simple. Si j'ai une idée de l'ambiance, ça va. Si j'en ai pas du tout, je vais vite fait lire l'essentiel pour m'imprégner. Ensuite j'écris mon scénar. Et je ne vais voir que les règles dont j'aurai besoin pour résoudre ce scénar. Si jamais il y a un trou à un moment donné, ça va, j'ai compris la base, je ferai avec la base et voilà. Mais faut aller à l'efficacité. Et plus tu vas aller, plus tu vas creuser dans les règles, les points de « ah mais ça c'est super intéressant, machin ». Mais prends juste ce dont tu as besoin pour ton scénar. Et puis après, les règles qui vont te servir uniquement pour ce scénar, tu ne vas pas t'embêter avec les batailles rangées s'il n'y a aucune raison qu'il y ait une bataille rangée dans ton scénario, tu vois. Et quand on a cette lecture-là un peu plus efficace, c'est un peu moins effrayant de manipuler un gros bouquin de 400 pages et on peut se lancer plus facilement. Donc, si tu veux vraiment redémarrer le diesel, pose une date avec tes copains. Là, tu n'auras plus le choix. Il faudra assumer derrière.
Pour le coup, tu as pleinement raison hein, parce que, bon, effectivement, en fait, j'ai arrêté. On a une partie en cours, en fait, hein, mais j'ai arrêté parce qu'il y a plein de trucs dans ma vie qui ont fait que, voilà, on n'a plus le temps, mais... Voilà, en fait, c'est intéressant que tu viennes de dire ça parce que le conseil, je pense, le meilleur conseil pour démarrer une partie, c'est celui que tu viens de donner, c'est poser une date. On aura toujours quelque chose à faire avant de poser une date pour se voir, pour prendre un verre avec quelqu'un, pour passer du bon temps. Et en fait, il faut savoir prendre le temps, savoir s'arrêter. C'est hyper important. Et effectivement, surtout quand on doit, si on vous voulez jouer en groupe, mais du coup, organisez-vous entre vous et posez la date avec... Comme tu dis, Olivier, cet aspect de dire, voilà, c'est là, à cet instant-là, et tout le monde doit faire un petit peu en sorte que, effectivement, d'être au rendez-vous, quoi.
Oui, et que le portable ne nous serve pas d'excuse pour oublier quelque chose qui est quand même très noble et qu'on a oublié. C'est la parole donnée. J'irais même jusqu'à employer le terme d'honneur. Moi, c'est un truc qui me séduit encore beaucoup, tu vois, c'est un peu chevaleresque, mais voilà. Quand j'ai donné ma parole, je me suis engagé. On n'a pas à juger que c'est pour l'anniversaire d'un tel, que c'est pour une partie de jeu de rôle ou que c'est pour un rendez-vous hyper important. J'ai donné ma parole, j'y vais. Après, bien sûr, cas de force majeure, ça se prévoit en avance. Il y a un énorme truc qui pose une occasion en or sur tel jour. Bon, là, je vais rappeler les copains pour dire, les gars, on a posé telle date, mais voilà ce qui m'arrive. Est-ce qu'il y a moyen, tu vois, un mariage, par exemple?
Ça, c'est un cas de force majeure.
Voilà, cas de force majeure, ok. Mais sinon, globalement, on n'a pas le droit d'avoir la flemme le jour J. Et les émissions, c'est bien pour ça aussi, tu vois. Très souvent, j'entame une émission en mode... J'ai pas envie, mais en fait, une fois que c'est lancé, tu vois, après une journée de boulot, faire une partie de JDR, surtout si c'est moi le maître des jeux, mais en fait, une fois que c'est lancé, je me rends compte que les trois quarts du temps, bah, je suis super content.
Lancez-vous.
Ouais, lancez-vous. Dans le Sud, on te fait souvent ce truc de faut qu'on aille se boire un coup, un de ces quatre. Et moi, maintenant, ma parade, je sors mon téléphone, je dis OK, quand?
Quand, ouais.
Parce que si on ne prend pas de date, on ne le fera jamais. Donc arrêtons de dire ce genre de choses, tu vois.
C'est vrai.
Mais quand? Vas-y. Moi, j'ai mon téléphone dans la main, j'ai mon agenda. Et je pense que voilà, pour le jeu de rôle, c'est pareil. Si on veut jouer, il faut poser des dates, même si c'est qu'une fois par mois, même si c'est... Et il faut se lancer. Mais tu te lanceras, parce que je t'inviterai sur la chaîne, tu me feras jouer à quelque chose.
Oh, la pression, mais avec grand plaisir. Grand, grand plaisir.
Comme ça, on parlera un peu de Radio Taverne.
Exactement, avec grand plaisir. Olivier, en tout cas, l'interview arrive sur la fin. Et il y a un rituel dans Radio Taverne, c'est le passage de flambeau. Il faut que tu me donnes le nom de quelqu'un qui pourrait passer après toi derrière le micro.
Waouh. Quelqu'un que je peux t'aider à contacter ou peu importe quelqu'un
Peu importe.
Quel genre de profil tu souhaites tu peux recevoir non, mais un pro du jeu de rôle, un pro du streaming
Quelqu'un qui, où ça semble important pour toi qu'il passe au micro. Alors bien sûr, touchant le jeu de rôle, mais ça peut être un profil très varié, voire même très inattendu.
Je pense qu'il faut que tu essayes de... Je pourrais voir éventuellement avec lui, mais ça pourrait être intéressant que tu invites Marc Sautrio, qui est le responsable de la création chez Black Book.
Black Book, ouais.
Il a un rôle très important. Ce n'est pas quelqu'un qui est mis très en avant. Moi, je voudrais l'inviter aussi pour une petite partie sur la chaîne. Voilà, Marc Sautrio. Après Croc, mais Croc, on le voit un peu partout. C'est moins original, mais c'est quand même un dinosaure, si me pardonne cette métaphore, du jeu de rôle. Donc Croc, ça peut être bien aussi.
Alors, Marc, si tu nous écoutes, bientôt, ça sera ton tour.
J'espère qu'il nous écoutera.
Merci beaucoup, Olivier. J'ai envie de te dire, quel est l'ultima verba au sujet du podcast de Radio Taverne?
Quels sont les derniers mots? Ah là là, la pression, faut pas que je dise n'importe quoi. C'est fou. Là, tu m'as complètement dépourvu, je n'ai pas d'idée, mais c'est pas grave. Les derniers mots, sachez jouer. Ça veut dire remettez le jeu à sa place. C'est très malsain d'avoir énormément de problèmes dans sa vie et de les fuir à travers le jeu de rôle. Réglez vos problèmes pour que le jeu reste du jeu. Sachez jouer. Et ceux qui sont peut-être un peu trop sérieux, justement, trop dans le monde, bah, qui sachent aussi des fois se prendre un peu moins au sérieux, écouter l'enfant qu'il y a en eux pour aller jouer alors qu'il ne le ferait pas. Au fond, que ceux qui jouent trop retournent un peu dans le monde réel avant de revenir plus sainement au jeu, que ceux qui ne jouent pas assez quittent un peu le monde réel de temps en temps pour se prendre un peu moins au sérieux par le biais du jeu.
Merci Olivier d'avoir été avec nous.
Merci à toi pour l'invitation, encore une fois.
Quant à toi qui nous écoutes, tu peux retrouver Olivier Larue sur sa chaîne Twitch Ultima Werba tous les mardis soirs à 21h pour vivre l'expérience de la passerelle dont tu nous parlais. J'espère que cette interview t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de soutenir le podcast sur ta plateforme d'écoute en lui donnant la note de ton choix et en le partageant autour de toi et sur les réseaux. En attendant, je te dis à très vite pour une nouvelle rencontre. C'était Bax derrière le micro. À très bientôt.